Et donc, dimanche prochain, nous avons la présentation d'un enfant au Seigneur. Et donc, on se pose des questions sur ce qui est important de dire. Et puis, voilà donc un texte qui parle d'ambition. Alors, bien sûr, j'ai Olivia et John devant moi et je vais leur parler d'une belle ambition, mais parler également à chacun d'entre nous et tout particulièrement à tous ceux qui sont parents de l'ambition et de celle qui est la meilleure que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et dans l'évangile de Matthieu, donc, au chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de te le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Il y a un lien de parenté entre Jésus et les fils de Zébédée, entre Jésus, Jacques et Jean. La mère de ces deux derniers, Salomé, est vraisemblablement la sœur de Marie, mère de Jésus. Jacques et Jean sont donc les cousins du Seigneur. Et c'est probablement cette parenté qui amène Salomé à demander une faveur et qui lui permet d'oser une telle demande à celui qui est vraisemblablement donc son neveu, son parent, proche sur le plan humain. Notre Salomé suit la coutume de l'époque. Elle s'approche de Jésus et elle se prosterne devant lui. Jésus l'interpelle et lui dit « Que veux-tu ? » Et nous entendons alors la réponse étonnante de cette femme « Que mes deux fils soient, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Alors, nous écoutons la parole de Salomé et nous nous disons tout d'abord que c'est une demande un peu insensée. Cette demande de Salomé montre que celle qu'il adresse n'avait certainement pas compris la nature du royaume de Jésus-Christ. Et puis nous nous disons également que c'est certainement une demande coupable, parce que cette demande est inspirée par de l'orgueil, cette demande est inspirée par de l'ambition humaine. Mais en même temps, quand nous sommes à l'écoute de cette parole, de cette demande de Salomé, on découvre que cette demande est pleine d'une foi audacieuse, que cette demande est pleine d'une foi audacieuse et même profonde. Je ne sais pas si vous avez noté dans quel contexte Salomé s'adresse à Jésus. Les versets qui précèdent nous disent que Jésus est en chemin pour la dernière étape, cette étape qui le mène à Jérusalem, cette étape qui va l'amener jusqu'à la croix. Et alors qu'il chemine vers Jérusalem et ce temps terrifiant de la croix, Jésus va parler à ses apôtres et il va leur dire qu'il va être livré, et qu'il va être livré entre les mains des soldats. Il leur précise même que l'on va se moquer de lui, qu'il va être crucifié et qu'il va mourir. C'est donc immédiatement après cet entretien, immédiatement après ces paroles du Seigneur Jésus qui disent précisément, clairement ce qui va arriver, que Salomé fait cette demande pour les deux premières places. Elle croit donc, notre Salomé, à la réalisation du royaume du Seigneur. Elle croit donc au triomphe final de Jésus. Elle sait qu'il va régner un jour. Sa prière, sa demande, manifeste une foi forte, une foi exceptionnelle. Sa prière manifeste que Salomé a une confiance absolue dans la parole et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Elle croit et espère malgré les apparences. Et c'est sans doute pourquoi Jésus ne la reprend pas. Bien au contraire, Jésus va répondre avec une immense douceur aux paroles de cette femme. Ordonne, dit-elle, ordonne que mes fils soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans le royaume qui vient. Ce n'est pas la première fois que la question de la première place se pose dans les échanges entre les 12 apôtres dans ce cercle intime des 12. L'évangéliste Marc, au chapitre 9, nous dit déjà qu'un jour ils étaient en chemin et que sur ce chemin ils s'étaient disputés. Et ils s'étaient déjà disputés à cause de cela, à savoir qui est le plus grand parmi eux. Et c'est donc l'évangile de Marc au chapitre 9 Et je ne sais pas si vous connaissez là encore le contexte, mais quand ils se sont disputés pour savoir qui est le plus grand, Jésus a pris un petit enfant. Et après avoir pris ce petit enfant, il l'a tenu dans les bras et il a dit ceci: « Celui d'entre vous et qui est le plus petit, c'est celui-là qui sera grand. » Je cite à partir de Luc chapitre 9, verset 48. Rappelez-vous également, c'est le dernier repas, le dernier temps ensemble avec les disciples. Et au cours du repas, Jésus vient de dire qu'il va être trahi par un de ceux qui sont là à table avec lui. Et alors, Luc nous dit une chose étonnante. Il nous dit « Il arriva alors une contestation ». Jésus parle de trahison, parle de ce qui va lui arriver. Et dans ce moment-là, dans cette chambre haute, il arriva une contestation entre les 12, toujours sur le même thème, à savoir qui est le plus grand. Alors, Jésus va intervenir et lui dire et leur dire que le plus grand parmi eux, eh bien, doit être comme le plus petit, comme le moindre. Et parce que Jésus ne parle jamais sans agir, qu'avec le mot, il y a l'acte, il y a l'action, eh bien, Jésus va prendre de l'eau et il se met à laver les pieds de ses disciples. Regardez plus tard le texte de Luc 22 et vous découvrirez. C'est donc une disposition étonnante, et on pourrait dire même une disposition fortement ancrée dans notre nature humaine, et que cette disposition qui nous pousse à vouloir la première place ou bien à demander la première place. Cette disposition, c'est l'amour du pouvoir, c'est l'amour de la domination. Vous avez certainement remarqué que l'on trouve déjà cette disposition chez l'enfant. On l'observe dans les jeux, on l'observe dans les relations avec leurs copains et leurs copines. Que de rivalité, parce que ils veulent la première place. Et permettez-moi de vous dire que cela ne passe pas avec l'âge. C'est vrai avec nos enfants, mais c'est tellement vrai également dans notre propre vie. Il suffit un tout petit peu de nous regarder vraiment dans le miroir. Et alors, on est là à découvrir que ce sont là bel et bien les dispositions et qui sont souvent dans notre cœur. Oui, nous aimons la première place. Oui, nous aimons être considérés. Oui, nous aimons avoir raison. Et on pourrait rajouter d'autres paroles pour appuyer ce que je viens de dire. Que de fois, en regardant tel ou tel, nous disons, bien, il a un peu l'esprit dominateur. Et je ne sais pas si vous avez noté les paroles de Jésus, mais Il dit à un moment, il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Il faut bien me comprendre. Je n'ai pas dit, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas rechercher la réussite, qu'il ne faut pas rechercher de vivre vraiment. Mais il faut faire attention à un état d'esprit. Il faut rejeter, combattre cet état d'esprit quand il est là dans notre cœur et dans notre vie. Alors je voudrais aller un tout petit peu plus loin. En regardant cette mère et l'ambition de cette mère. Or, je ne sais pas pourquoi il est question d'une mère seulement, mais on pourrait dire que cela est aussi vrai parfois dans le cœur d'un père, et que nous pourrions échanger et dire cœur d'un père, cœur d'une mère, ambition d'une mère, ambition d'un père. Bon, enfin, ici, c'est d'une mère dont il s'agit. Et quand nous regardons ce texte, nous découvrons qu'elle désire la grandeur, qu'elle désire la gloire, qu'elle désire la puissance pour ses enfants. Et on va dire très vite à nouveau que c'est bien naturel. Quelle mère, quel père ne voudrait pas cela pour son enfant? Et je voudrais vous poser cette question. Et vous, que désirez-vous pour votre enfant? Que désirez-vous pour vos enfants? Nous sommes ambitieux pour eux. Et je pense à nouveau qu'il y a des ambitions permises. Le droit de désirer pour eux la réussite scolaire, professionnelle, familiale. Et je pense que cela est normal dans le cœur d'une mère et d'un père de travailler pour ces choses-là. Mais je repose encore la question, mais vous, que désirez-vous pour votre enfant? Nos yeux restent trop souvent rivés sur certaines ambitions, certes importantes pour la vie, mais certaines ambitions et qui ne sont pas l'essentiel et qui n'amènent pas le bonheur dans la vie d'un enfant, dans la vie de ce que le Seigneur nous a donné. Et j'aimerais vous dire aux uns et aux autres, prenons garde à nos ambitions. Prenons garde que nos ambitions ne mettent pas de côté l'essentiel. Il nous faut agir pour qu'il y ait une ambition belle, c'est de mettre l'essentiel à sa place dans la vie de nos enfants, dans nos vies de famille, dans notre vie personnel. Nous devons ambitionner pour eux, qu'ils deviennent des rachetés de Jésus, qu'ils deviennent des enfants du Seigneur. Nous devons ambitionner qu'ils grandissent pour le Seigneur. Et alors, permettez-moi un conseil. J'aimerais vous dire que c'est du côté où nous tournons nos regards et nos cœurs. Et si du côté où nous faisons nos efforts, que les regards, que les cœurs, que les efforts de nos enfants se tourneront. Il importe qu'il y ait une ambition, celle d'aimer Dieu, de plaire à Dieu, et que nos enfants voient au travers de nos vies cette ambition-là. En voyant cette ambition-là avec les autres peut-être également, eh bien, à leur tour, ils sauront que ce qui est important et essentiel, c'est que le Seigneur Jésus ait sa place, une place première dans notre vie. Salomé avait demandé la place à droite et à gauche de Jésus. Elle ne savait pas ce qu'elle demandait. Savez-vous qui a été à la droite et à la gauche du Seigneur? C'est deux malfaiteurs et qui sont morts d'une manière terrible sur une croix. Ce que nous devons ambitionner pour nos enfants et pour les nôtres, c'est bel et bien ce que Dieu souhaite pour eux, c'est qu'ils aient un cœur rempli d'amour pour Jésus-Christ, un cœur qui se donne pour son service, un cœur et qui, engagé pour le Seigneur, connaîtra le bonheur de lui appartenir et de le servir. Alors je voudrais terminer juste avec un mot d'ordre. Que Dieu nous aide, les uns et les autres, dans nos ambitions. Non pas rechercher les grandeurs qui passent, mais à rechercher la vraie grandeur qui demeure pour l'éternité. Voilà, il y a quelqu'un qui va aller chercher nos enfants pour le temps de la présentation. Je vous invite. Voilà, eh bien, nous allons prendre sur le même recueil le numéro 726. Je vais demander à John et Olivia et Laura de s'approcher et aux grands-parents des deux côtés. Et puis si les autres enfants veulent venir avec, eh bien voilà. Et donc merci de venir. Donc John, Olivia et puis les grands-parents des deux côtés, merci de vous approcher et de venir là. Alors le cantique numéro 726 a été choisi par John et Olivia.
Amen.
Voilà, eh bien, tout d'abord un petit mot. Nous sommes heureux d'avoir Olivia et John. Olivia et John sont en Guadeloupe depuis déjà un petit bout de temps. Ils ont été là-bas pour le travail, mais ils sont donc de la communauté. Et pour nous, c'est une joie de les voir et de les retrouver chaque fois qu'ils reviennent pour un temps. Et puis, nous sommes heureux parce que le Seigneur a fait de belles choses pour eux. Alors déjà ici et puis là-bas, j'ai choisi pour ce moment-là un texte qui se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12 et au verset 24. Et Samuel dit ceci: Voyez quelle chose magnifique l'Éternel a faite en votre faveur. Voyez quelle chose magnifique l'Éternel a faite en votre faveur. Et de vous voir alors en famille avec les trois enfants, eh bien, je me dis, c'est quelque chose de très beau que de voir cette famille que Dieu vous a donnée. Et tout à l'heure, eh bien, j'ai essayé de vous dire et de dire à chacun que ce qui est le plus important, c'est cette ambition que vos enfants, eh bien, soient à Jésus-Christ, mais tout en travaillant pour leur réussite dans d'autres domaines. Mais quand on regarde aux choses que Dieu a faites, eh bien, nous pouvons redire avec Samuel, voyez les choses magnifiques que l'Éternel a faites en votre faveur. Et nous voulons donc venir devant lui et lui dire merci, mais aussi lui dire, Seigneur, c'est toi qui as fait cela. Et tout particulièrement ce jour de dire, c'est toi qui nous a donné Laura, et nous voulons te demander de la bénir et de la bénir abondamment. C'est donc une prière que nous allons adresser au Seigneur, et c'est les deux grands-pères qui vont venir l'un après l'autre pour prier. Et puis ensuite, on va vous laisser aller là-bas parce que Ludo doit chanter, mais si on est ici pour l'écouter, on n'entend pas très bien. On ira là-bas pour l'écouter. D'abord l'un, puis l'autre, là, de venir pour prier, de demander au Seigneur la bénédiction sur Laura.
Notre Dieu, nous voulons te prier de bénir Laura et de l'accompagner dans la vie qui est devant elle. Nous voulons te prier pour nous-mêmes, d'être des exemples pour elle, que nous sachions lui montrer la création, ce que tu as fait, qu'elle devienne elle aussi un disciple. Seigneur, qu'elle comprenne un jour que tu es mort pour elle, pour ses péchés. Et aide-nous, Seigneur, nous t'en prions en Jésus. Amen.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons, te bénissons, parce que nous pouvons être reconnaissants des biens que tu nous donnes, d'être dans la joie, de pouvoir te présenter les enfants, nos petits-enfants, et te présentons Laura dans la vie que tu lui donnes, que tu lui réserves, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants, nos proches. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons aussi te prier pour ceux qui sont dans la maladie, et nous pensons particulièrement à Josette aussi, que tu la bénisses et que tu la guérisses. En Jésus-Christ. Amen.
Voilà, bien, je priais aussi avec vous pour Laura. Seigneur, merci pour les enfants. C'est un don de ta part. Et je te prie pour John, je te prie pour Olivia, pour qu'ils puissent éduquer Laura et leurs autres enfants d'une manière qui t'honore et te glorifie. Que chacun puisse prendre position pour toi et avoir une vie belle, une vie toute à ta gloire, toute à ton honneur. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute bénédiction. Tu aimes tes enfants et tu leur donnes de belles choses. Nous te remercions d'être un Dieu si bon, si grand. Amen. vous invite à chanter le numéro 29, toujours sur le même recueil. Et c'est donc un des autres chants choisis par Olivia et John. Chante Alléluia au Seigneur, Jésus est mort pour nos péchés, il est vainqueur de la mort. Le numéro 29 sur Chantons ses merveilles. Voilà, bien, on va prendre le cantique numéro 200. Je crois que dans quelques jours, Olivia et John s'en vont. C'est quel jour, John? Voilà, donc on va chanter ce numéro 200. Ils repartent donc vers la Guadeloupe. On va se lever pour chanter ce « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». On veut penser tout particulièrement à eux, ils repartent donc vers cette belle île. Mais que le Seigneur soit sur vous.